Aujourd'hui, je voulais parler du yoga nidra. Il y avait eu des questions là-dessus. Tu as déjà eu un enseignement en novembre sur le yoga nidra ?
Non.
Non, non, tant mieux. Voilà. Donc, je vais vous lire un petit peu au point de vue neurologie ce que ça veut dire. C'est un peu compliqué à comprendre, mais ça vous montrera qu'il se passe des choses.
Je m'en ai rendu compte. Hein.
Ouais. Ah oui.
Ah oui, quelques jours il se passe des choses.
C'est bien net.
Mais bon, il n'y a pas que le ganitra, il y a surtout la personne qui est avec nous, je pense.
La personne
toi,
qui
ben, toi.
Ah oui bah, ah bon.
Je pense que sans t'envoyer des fleurs, tu le sais, tu as une grosse capacité de l'intuition, enfin la pratique, le discernement des gens, quoi. Je trouve que tu as une capacité impressionnante.
Je comprends.
Tu es d'accord ?
De lire un peu dans ce qui se passe chez la personne et
ouais, je trouve,
refléter en fonction.
Très intuitive, non ?
Tu accompagnes bien.
D'accord. Alors, c'est quelque chose que je vais vous lire. C'est un chirurgien neurologue peut réinitialiser le corps en stimulant le cerveau. Alors que le pratiquant du yoga nidra fait ce même processus par l'autre extrémité du circuit neurologique. Grâce à la rotation de la conscience dans le corps. Et c'est le premier exercice qu'on fait. Et quand on fait la mindfulness, ça, on l'appelle le scan corporel. C'est la même chose. La rotation de la conscience dans le corps, à la base, c'est la pratique de base de ce qu'on appelle vipassana. Les retraites vipassana insistent sur ça. Et on fait ça tous les jours pendant des heures, mais de différentes formes. Et c'est comme si y avait un doigt subtil qui venait toucher des endroits du cerveau pour les embraser, les allumer, les éclairer. C'est ça que fait la rotation de la conscience. Et c'est pour ça que John Kabat-Zinn a décidé de l'utiliser aussi. Donc, cette rotation de la conscience, elle agit sur la partie du cerveau qui gouverne les sensations et les activités musculaires de tous les membres et organes du corps. Y compris le gros intestin, l'intestin grêle, le foie, les poumons, tout ça. Qui ne sont pas gouvernés par la volonté, hein, par les muscles volontaires. C'est les muscles involontaires qui font ce travail. C'est le cortex sensorimoteur qui est impliqué dans la planification et l'exécution des fonctions volontaires. Et c'est à ça qu'on touche. Ce qui est étonnant, c'est que cette rotation n'apporte pas que la relaxation du corps. ce qu'on fait au début. Ouais. On sent que le corps lâche. Elle décontracte aussi le cortex sensorimoteur du cerveau. C'est-à-dire que le yoga nidra, suivez bien ça, finit par décontracter l'esprit en utilisant l'esprit pour décontracter le corps. Parce que quand on fait le scan corporel, on utilise l'esprit pour décontracter notre corps. Mais qu'est-ce que ça finit par faire ? Ça finit par décontracter notre esprit. Ensuite, le yoga nidra réinitialise d'autres facteurs de la vie, tels que les sensations externes et l'harmonie nécessaire pour les vivre. Puis, le yoga nidra réinitialise le sens du poids du corps décontracté. On le sent, hein, on se sent vraiment lourd après, qui s'accentue. Et son opposé se fait ressentir aussi, cette espèce de légèreté qui peut venir après. Car le cerveau apprend à réguler sa réponse en apportant une certaine déprogrammation et en provoquant son opposé. Ces stimulations des mécanismes homéostatiques que je viens de décrire atteignent la région de l'hypothalamus qui régule le système nerveux automatique, voilà, involontaire. C'est ça qui agit sur le foie, l'intestin et tout ce qui, on n'arrive pas à réguler avec notre volonté. Quand on dit j'ai le diaphragme, il est crispé et tout ça, c'est involontaire. Mais c'est magnifique parce que le yoga nidra arrive à déprogrammer ces choses-là. Et une excitation de cette zone, de l'hypothalamus, fait monter des émotions fortes que nous sommes invités à accueillir dans un état profond de relaxation. Si bien que les émotions qu'on vit dans le yoga nidra passent un peu comme une lettre à la poste. Parce qu'on a ce facteur de régulation. Autonome. Cela crée un nouveau circuit, c'est ça qui est intéressant, qui incorpore les deux états extrêmes paradoxaux en grande relaxation. Donc il y a l'état du système nerveux automatique involontaire, et puis il y a aussi l'état de l'autre système nerveux volontaire. Je l'entendrai comme ça. Nous créons ainsi de nouvelles façons d'aborder la réalité conventionnelle avec équilibre et quiétude. C'est ça que ça nous apprend. Parce que finalement, on n'a plus des réactions inconscientes qui émergent dans des situations difficiles. Et pour ça, y a bien l'exemple de ce monsieur qui avait fait beaucoup de prison toute sa vie. Et qui était venu dans une classe de yoga nidra et qui a dit bah, « je voudrais faire ça ». J'ai appris que ça peut m'aider. Ben, il a fait plusieurs mois, je ne sais pas combien de temps, de yoga nidra. Il est venu à toutes les sessions parce qu'il était très cabossé psychiquement. Après la prison, hein, c'est normal. Eh bien, à la fin, il a dit, bah, ça y est, je suis tout nettoyé, je suis bien, je suis zen, merci. C'est Yoga Nidra qui a fait ça. Il n'y avait même pas de psychothérapie. C'est dingue. Donc, finalement, le Yoga Nidra, il travaille sur différents corps en nous, différentes parties de nous. Il travaille sur... D'abord, il nous demande de choisir de nous relaxer quand on est allongé. Relaxation complète, sentir la respiration, sentir le corps qui s'apaise, qui pèse aussi avec la pesanteur. La deuxième étape, c'est il nous demande de choisir une résolution, quelque chose, une affirmation positive. Et ça, c'est important. Parce que les personnes, par exemple, qui veulent arrêter de fumer, peuvent très bien faire un travail là-dessus avec le yoga nidra. Finalement, elles court-circuitent cette envie de fumer.
Interrompre ou pas?
Alors, donc, après la résolution, qui est la deuxième étape, on passe à la troisième étape, on s'occupe du corps matériel. Hein? Et on s'incarne dans ce corps matériel avec le scan corporel ou la rotation de la conscience. La quatrième étape, c'est on s'occupe du corps énergétique. On a cinq corps. Le corps matériel, le corps énergétique, donc le corps énergétique, énergétique, oui, c'est celui où on fait la respiration, on la compte à reculons. Ensuite, la cinquième étape, c'est le corps émotionnel et mental. Donc là, on s'occupe d'images et d'opposés, froid, chaud, ça sent bon, ça sent mauvais, etc. Voilà. La sixième étape...
Les cinq corps, alors c'est le corps matériel, énergétique... Émotionnel.
Émotionnel. Ensuite, la sixième étape, on va s'occuper du corps numéro 4, c'est le corps intuitif. D'accord. Alors là, on utilise un langage différent, des symboles, des archétypes, des visualisations, on est autre part, on fait... voilà. Et ça mène au corps de lumière, qui est le cinquième corps. C'est celui de la réalisation. Donc, ça fait partie de la sixième étape, ça. Et puis, la septième étape, on retourne à l'affirmation qu'on avait choisie. Et la huitième étape, on retourne au corps bien détendu, on écoute les sons, tout ça. Voilà. Donc, il y a toutes ces étapes qui sont importantes à faire dans l'ordre. Parce que ça va toucher des couches de l'être de plus en plus subtiles. Alors, les avantages du yoga nidra, vous l'avez bien vu, il se passe quelque chose, si bien que votre méditation, elle est zen, quoi. C'est plus facile à rester en méditation après.
Ouais.
Parce que le corps est bien détendu, mais il y a plus que ça. Le yoga nidra, il extirpe notre esprit des entraves qui nous gardent dans l'ignorance. Avec le yoga nidra, on s'élève au-dessus de nos dictateurs intérieurs. On ne se bataille plus avec. On est au-dessus. Donc les cinq entraves, ces entraves, il y en a cinq. C'est des obstacles, on les appelle aussi les chaînes, les menottes, les nourritures de l'ignorance. Tout ça. Ces obstacles sont impermanents, donc c'est chouette. C'est pas quelque chose qui reste avec nous. On peut les défaire, on peut les dissoudre. Et ces cinq obstacles, quand on médite sans avoir fait le yoga nidra, ni le yoga et la relaxation, c'est plus difficile parce qu'on va avoir à faire face à ces obstacles et s'élever au-dessus de ça. Donc le premier, c'est l'attachement au plaisir des sens. Ce n'est pas le plaisir des sens, c'est l'attachement. Hein, c'est la convoitise, le désir. Alors, c'est le désir et puis la résistance, hein, c'est bipolaire. Il n'y a pas d'issue. On oscille entre l'un et l'autre. On peut se complaire dans les plaisirs sensuels. Hein, mais on se rend compte que finalement, on reste insatisfait. Par exemple, « Oh, j'aimerais bien, pendant la méditation, on pense du chocolat. Ah, j'aimerais bien du chocolat. » Mais si je prenais un petit carré pendant la méditation, hein, bon. Donc, on se dit, bon, ben, avant la méditation, je vais prendre mon carré de chocolat, comme ça, je serai satisfaite. Mais ce qui se passe, c'est qu'on apprend à ne plus manger la tablette entière. Mais moi, je me souviens, quand j'étais adolescente, j'achetais la tablette de chocolat et je la finissais. Et les enfants, quand ils ont une glace, ils la finissent le plus vite possible pour en avoir une deuxième. Hein? C'est ça. C'est...
Pas que les enfants.
Et voilà, exactement. C'est l'insatisfaction. Ça, c'est l'attachement au plaisir du sens. Parce que on aime bien la bonne glace, d'accord. On s'arrête là. On l'associe à la teinture dans l'eau. Car ensuite, quand cette teinture elle est dans l'eau, on ne peut plus l'enlever de l'eau. Elle reste, l'eau reste ternie par la teinture. C'est aussi malin, aussi désagréable, aussi perturbant que ça. Il y a...
Est-ce que tu peux poser des questions ou pas trop?
Face à cet attachement au plaisir des sens, C'est très agréable d'ouvrir la bouche et de parler. On le fait beaucoup. Et alors, donc, à Bali, il y a un rituel de passage à la puberté qui consiste à limer légèrement 6 dents de la mâchoire supérieure de l'enfant pour attirer l'attention de l'enfant sur ce qui sort de sa bouche. Les mots laissant derrière eux les 6 pulsions, colère, jalousie, arrogance, avidité, luxure et attachement. Vous vous rendez compte? C'est quelque chose, hein? Bon, on a fait la première entrave, l'attachement au plaisir de sens. Vous avez compris hein, de quoi il s'agit. C'est bien net. Le deuxième, c'est la négativité, la malveillance, l'aversion, la résistance, le rejet, la critique de l'autre, etc. Les jugements, ça, c'est basé sur des jugements, des croyances, des pensées binaires, c'est ou lui ou moi, un langage déresponsabilisant, il faut, tu dois, tout ça. Tout ça, ça va dedans. Et cette négativité, cette malveillance, on l'associe à de l'eau bouillie. C'est-à-dire que l'eau bouillie, ça brûle. Et ça me rappelle un proverbe qui disait quelque chose comme « Si tu veux lancer un charbon ardent à quelqu'un, tu vas d'abord te brûler la main. » Donc, dans cette situation, le mental est agité. Il y a des émotions négatives, des comportements négatifs, si on n'est pas en train de méditer. Il y a de la détresse, de la crainte, de l'anxiété, de l'inhibition. Donc, vous le reconnaissez, on l'a parfois en méditation. Et on se dit, oh non, je peux plus m'asseoir là, c'est impossible, j'arrête. On arrête la méditation. Ces entraves, elles nous empêchent de méditer, carrément. L'attachement au plaisir des sens, c'est facile. On se dit, oh bon, je vais prendre un petit carré de chocolat. Voilà, on mange un petit carré de chocolat, puis finalement, on veut se laver les dents, puis après le téléphone sonne, puis après on a complètement oublié qu'on était en train de méditer. On peut appeler ça aussi la persécution intérieure, cette négativité. Et Jean-Philippe de Tonnac dit « La méditation suspend la persécution intérieure. » Donc ça nous aide à changer intérieurement. Le troisième obstacle qu'on arrive à surpasser, on arrive à surpasser tout ça grâce au yoga nidra, il n'y a plus de tout ça. C'est l'agitation, la distraction ou l'inquiétude. C'est tout ce qui est agité. C'est le plus commun des 5. Moi, je dirais que c'en est un autre, mais bon, c'est assez commun dans notre société moderne. Donc, il y a de l'hyperactivité. Ça entretient des automatismes. Et dans ce cas, voir les pensées comme des nuages qui passent pour aider à lâcher prise. Et ça, cette agitation, on l'associe à des étincelles éparpillées. Vous savez, quand on jette un objet lourd dans le feu, une bûche, ça fait ouf ! C'est ça, la distraction, l'agitation, l'inquiétude. On ne peut plus ramasser les morceaux après. Il est bon de faire la méditation marcher à la place. Sri Aurobindo, je ne sais pas si c'est celui qui a commencé Auroville avec Ma, avec Mère, en Inde, il marchait 8 heures par jour. pour faire descendre la lumière dans la matière, disait-il. Hein? Je vais donner des retraites de méditation avec 8 heures de marche par jour. Marche formelle, intensive, hein. Pas celle dans la nature, la ludique. Hein. Ouais, c'est quelque chose. C'est étonnant, hein. Bon, le quatrième obstacle, c'est le brouillard mental, la léthargie, le manque de motivation, la torpeur, l'endormissement. Pour moi, c'est le plus fréquent. Plutôt que l'agitation. Mais enfin, ça dépend des gens et des caractères. Et cette entrave, on l'appelle, on l'associe à des algues. Je dirais même vertes et toxiques. Et quand vous allez dans l'eau, les algues, elles s'entourent autour de vous, vous savez. Donc l'antidote pour ça, ben, il faut se mettre debout ou laisser 30 minutes passer. Et après on se réveille. Le cinquième, la cinquième entrave, le cinquième obstacle à la méditation, c'est le doute sceptique. C'est associé à une eau trouble, ça. Parce qu'on n'y voit pas clair. Et on est toujours en train de douter. On manque de confiance dans l'enseignant, ou alors on manque de confiance dans l'enseignement, ou on manque de confiance dans le groupe qui est avec nous, ou on manque de confiance dans notre propre pratique, etc., etc. On doute de tout. Voilà. Donc, ces cinq obstacles disparaissent de notre vécu quand on fait le yoga nidra, puis la méditation après. C'est étonnant.
Et ça marche.
Donc c'est très agréable à faire. Cette pratique de yoga nidra mène aussi à une qualité. Inconditionnelle. C'est une vertu transcendante qui a des valeurs intrinsèques. On appelle ça une parami ou paramita. Il y en a 10. Et l'équanimité, celle dont je vais vous parler, elle apparaît avec le yoga nidra. L'équanimité, c'est la qualité de pouvoir vivre des opposés sans être vraiment en difficulté. La capacité de garder l'esprit en équilibre, quelle que soit la situation. Alors quand les choses vont vraiment bien, quand on a l'équanimité, on ne s'excite pas trop. Et c'est surtout quelque chose que les rappeurs doivent apprendre, parce qu'ils s'excitent tellement qu'après ils prennent de la drogue et puis après ça les détruit, hein. Quand on est très connu. Et quand les choses vont vraiment mal, ne soyez pas déprimés. C'est ça l'équanimité. Ce n'est pas une simple acceptation des choses telles qu'elles sont. C'est qu'on accepte que les choses soient telles comme ça, mais que ça ne va pas nous faire souffrir nécessairement. Ça ne nous rentre pas dedans comme des épines. Et ça, c'est quelque chose qu'on acquiert grâce au Yoga Nidra. Alors, l'équanimité, c'est aussi tenir pour égaux différentes qualités. Alors, il y a, par exemple, le plaisir ou la douleur. Ne pas se laisser emporter par l'un ou par l'autre. La louange, l'éloge ou la critique, le blâme. Ne pas se laisser emporter par l'un ou par l'autre. La célébrité, je donnais l'exemple des rappeurs, ou l'anonymat et le déshonneur aussi. Ça va jusqu'au déshonneur. C'est très difficile de garder son calme face à tout ça. Et puis le gain et la perte. En 1929, c'était la grande, la grande débâcle, comme on dit en français. La grande crise, oui. C'est ça. Il y a une personne de la famille de mon ex qui s'est suicidée, mais qui voulait se suicider parce qu'il avait toute une entreprise de fabrique de chaussures aux États-Unis. Et avec la grande crise, il a tout perdu. Et il ne pouvait même pas payer ses ouvriers. Et c'est ça qu'il voulait vraiment faire. Et il voulait tout vendre, sa maison et tout, pour payer ses ouvriers. Pour qu'au moins eux puissent rentrer chez eux avec un peu d'argent. Il a failli se suicider et finalement, sa famille, ses frères et tout ça, l'ont aidé. Lui ont donné un peu d'argent. Et petit à petit, il a pu payer les ouvriers. Et ensuite, sentir qu'il ne les avait pas abandonnés, quoi. C'était ça, le plus difficile. Donc ça, c'est la perte, l'échec. Hein, quand on vit un échec comme celui-là, c'est catastrophique. C'est ce qu'on voit avec les agriculteurs. Hein. Voilà. Et donc, on a le temps de faire une dernière petite chose. Et je vais choisir un bout de papier pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Donc sur ce bout de papier, je trace une ligne en haut, je vais faire un quadrillage. Et il y a un cadran. Qui sera la colonne où on a des pensées. Et un autre cadran à côté, qui sera la colonne où il n'y a pas de pensée. Dans les cadrans verticaux, cela c'était horizontaux. Le premier des cadrans, c'est quand il y a moi, je, Bibi, mon histoire. Donc, et le deuxième cadran, c'est quand il n'y a pas de moi. Cette sagesse vient d'un Upanishad. C'est un des enseignements qui est venu après les Védas, qui s'appelle Mandukya Upanishad. Mandukya, c'est la petite tortue. M-A-N-D-U-K-Y-A. Mandukya Upanishad. C'est un petit livre que j'ai à la maison. Il doit faire à tout casser 20 pages. Facile à lire. Il décrit ces quatre différents états. Alors, la première boîte, c'est celle où il y a des pensées, où j'ai des pensées, et j'ai un sens de moi, je, Bibi, mon histoire. Ça, c'est quand on est réveillé. C'est l'état de réveil. C'est la vie de tous les jours. Et quand je m'endors la nuit et que je fais des rêves, finalement je suis le petit lapin, je suis la porte cochère, il n'y a pas de moi. Donc ici, c'est le rêve. La colonne d'à côté, quand je suis profondément endormie, je n'ai plus de conscience. Donc, il n'y a plus de moi. Mais je n'ai plus de pensée non plus. Je suis complètement inconsciente. Donc là, c'est sommeil profond. Voilà les trois états dont parle Mandukya Upanishad. Le réveil, le rêve et le sommeil profond. Pour comprendre ce dont parle Mandukya Upanishad, la perle, c'est que cette quatrième case, c'est l'illumination, si vous voulez. C'est un état qui s'appelle Turiya. T-U-R-I-Y-A. C'est celui auquel on accède quand on est dans l'illumination. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le yoga nidra va toucher à ces quatre états. Et c'est pour ça qu'on peut donc synthétiser sans y penser. Ça se fait tout seul. Voilà.
Dans les rêves,